Donc l'immigration des Yougoslaves, je corrige juste la date, c'est les années 50-70. Donc il y a une décennie à rajouter. D'abord, donc j'aimerais bien présenter un cadrage général. C'est que l'immigration des Yougoslaves remonte au 19e siècle. Et pour ces immigrés, la France n'est pas la première destination. Si toujours la France a été une étape pour les Yougoslaves qui partaient vers les États-Unis ou vers d'autres pays. Cette immigration s'est accélérée à partir de 1924. Les Yougoslaves travaillaient particulièrement dans les mines du Pas-de-Calais. En Meurthe-et-Moselle, ils étaient particulièrement présents, travaillaient dans les mines, l'industrie, l'agriculture. À Paris, ils étaient particulièrement des artisans. Et à Bordeaux, ils étaient dans l'hôtellerie et l'agriculture. À Marseille, Le Havre et Cherbourg, les Yougoslaves étaient présents juste dans une zone étape, c'est-à-dire avant de partir ailleurs. À partir de 1945, la Yougoslavie a adopté une politique de rapatriement de ses ressortissants, comme ça a été le cas sous Mussolini, pour les Italiens. Mais cela dit que l'immigration irrégulière a continué de façon continue, jusqu'aux années, pour toute la période que l'on étudie. Les Yougoslaves transitaient via l'Italie ou via l'Autriche. Et Nice était une zone très importante dans cette migration yougoslave, les Alpes-Maritimes au sens plus large, parce que ils venaient vers Nice, de là ils restaient proches de l'Italie, pour parfois parce qu'il y a des allers-retours, donc l'immigration irrégulière ne se faisait pas seulement dans le sens Italie-Alpes-Maritimes, mais aussi ça se faisait dans l'autre sens. À partir de 1962, le gouvernement yougoslave change d'attitude. Pour réduire le chômage et favoriser les flux de devises, donc il a laissé partir les Yougoslaves ailleurs. Et depuis le 25 janvier 1965, les gouvernements français et yougoslaves signent un accord sur l'emploi des immigrés yougoslaves en France. Cependant, la procédure cette procédure de contrôle, d'organisation des entrées régulières des Yougoslaves n'a pas été suivie parce que vous savez que c'est contrôlé en amont par les Yougoslaves et ça dépend aussi des envies des personnes de contrecarrer la voie officielle. Ça a été le cas dans l'étude qui a été faite par Nadhem Youssef sur les Tunisiens dans les Alpes-Maritimes. Il y avait des accords entre la Tunisie et la France. Mais vu les procédures administratives plus ou moins compliquées, certains préféraient partir par une autre voie, donc voie irrégulière. Les immigrés qui partent d'une façon irrégulière, même avec ces accords-là, c'est ceux qui refusaient cette dictature du maréchal Tito et préféraient quitter le pays. Et il faut dire que l'immigration irrégulière est conditionnée par trois facteurs. La situation économique, politique et sociale dans le pays de départ, dans le foyer de départ. La situation, la condition d'accueil en Italie et aussi la politique migratoire de la France. Ces trois éléments sont à prendre en considération pour comprendre le phénomène de l'immigration irrégulière. Le premier rapport mentionnant l'accroissement de l'immigration balkanique dans les Alpes-Maritimes remonte au 5 mai 1952. Le préfet écrit alors au commandant de gendarmerie, je cite, il m'a été donné de constater depuis quelque temps déjà une certaine recrudescence d'immigrants clandestins originaires des pays d'Europe centrale ou balkanique qui prétendent chercher refuge dans notre pays en se réclamant du droit d'asile. Il est difficile de procéder à un tableau précis de la fréquence des entrées irrégulières dans le département des Alpes-Maritimes. Vous savez bien que, comme pour l'immigration des réfugiés d'Europe centrale et orientale qui a été présentée par le professeur Ralph Shore, vous savez que la police n'intercepte pas tous ceux qui entraient d'une façon clandestine. Ce que nous avons dans les archives, ce que nous pouvons relever en termes de chiffres, Ce n'est que des indicateurs. C'est important aussi. Ça dépend de le renforcement de la surveillance et ça dépend aussi des flux. Ça donne aussi quelques indications. Et là, vous voyez un peu le graphique que je vous présente. Donc, selon un rapport du préfet des Alpes-Maritimes, entre 1949 et 1955, le nombre de Yougoslaves interceptés, donc c'est juste la période avant le graphique, est de 200 personnes. En 1956, le nombre de migrants irréguliers en provenance des Balkans reste relativement... En 1955, le nombre de Yougoslaves interceptés pour motif d'immigration irrégulière est de 200. En 1956, le nombre d'immigrants irréguliers en provenance des Balkans est resté relativement bas, soit 85. L'année suivante, c'est-à-dire l'année 1957, le chiffre grimpe d'une façon spectaculaire pour atteindre 1769. Pour l'année 1958, nous ne disposons de données que sur les cinq premiers mois, soit 1024 personnes. En revanche, le croisement des sources nous permet donc d'établir le graphique suivant, donc qui est donc projeté derrière moi. Le point culminant donc de cette immigration yougoslave, vous pouvez le voir, donc c'est l'année 1964. Vous voyez donc là, 1962, on a dit que à partir de cette date, le gouvernement yougoslave a favorisé ou a laissé partir les Yougoslaves. Donc c'est naturellement, on va voir que les chiffres vont augmenter presque du tiers. 1963, cette politique va être effectivement, donc va donner ses fruits. Donc on voit que le chiffre grimpe 1087, donc entrées irrégulières ou interceptions. Et 1964, le chiffre atteint son paroxysme. Par la suite, donc à partir de 1965, vous allez voir que les chiffres vont baisser. Je rappelle qu'à cette date-là, 1965, il y a eu un accord entre la France et la Yougoslavie. Et en 1969, vous allez voir ici que le chiffre va nettement baisser. C'est parce qu'à partir de cette date-là que les émigrés yougoslaves pouvaient rentrer en France sans avoir besoin d'un visa. Mais il y a quand même des personnes qui entraient d'une façon irrégulière parce qu'ils ne disposaient pas de pièces d'identité. Parce que pour demander un visa, il faut avoir un passeport. Donc là aussi, la question de l'entrée irrégulière des Yougoslaves, donc comme je vous ai dit, ça dépend de la politique italienne. La politique italienne, les Italiens, comme ça a été le cas également pour les Juifs, les Italiens ont poussé les Yougoslaves. Pas avec la même énergie déployée sous le régime fasciste, hein, mais on a des indices, on a des indicateurs, des témoignages qui disaient que les Italiens orientaient les Yougoslaves vers... les frontières franco-italiennes. Dans les procès verbaux de police, moi j'ai utilisé principalement donc les archives pénales, puisque ça a été la demande de M. Gasto. Je reviens ici juste pour vous donner un exemple. Hein, et après, là c'est le carton. Voilà, donc vous trouvez dans chaque carton des dossiers, franchissement clandestin de la frontière. Là, c'est une demande de bulletin de casier judiciaire, mandat de dépôt. Et là, vous avez le procès verbal. Je vais agrandir un peu. En fait, quand vous regardez... attendez, je vais juste agrandir. Qu'elle soit lisible. Voilà. Oui, ça va. Voilà, donc quand on lit les dossiers de procédure, donc les procès-verbaux de police, les interrogatoires de la police, donc on a voilà, les arguments qui ont poussé les Yougoslaves à venir en France. Voilà, je vais citer un premier témoignage. « J'ai quitté ma patrie pour échapper à la rigueur du régime qui ici vit actuellement. Je désire me fixer en France pour y chercher du travail. » Là aussi, on a d'autres témoignages qui rappellent que certains sont partis juste dans l'espoir de trouver du travail. Donc, ce n'est pas toujours l'argument politique qui avançait. Mais ce qui est commun, donc presque pour toutes les personnes interceptées, c'est qu'ils se débarrassaient de leur pièce d'identité. Parce qu'une fois ils rentraient en France sans pièce d'identité, la police française ne pouvait pas les refouler en Italie. Et même les Italiens, c'est les Italiens qui conseillaient donc les Yougoslaves de ne pas laisser leur pièce d'identité à portée de main. Cela dit, quand on regarde aussi les rapports du préfet, on voit toujours qu'il y a une certaine méfiance. Certaine méfiance, et de considérer que ces personnes-là étaient des indésirables. Et dans les rapports, on dit que le département n'est pas en mesure d'accueillir cette masse de migrants. Je vais vous lire un extrait d'un rapport du préfet des Alpes-Maritimes adressé au ministre de l'Intérieur. Les dernières statistiques font ressortir que les Alpes-Maritimes figurent actuellement parmi les régions où le pourcentage de chômeurs est le plus élevé. Et les services de main-d'œuvre attendent encore une recrudescence du chômage dans les prochains mois. D'autant plus que le département n'est ni industriel ni agricole. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun d'y fixer de nouveaux réfugiés en provenance de Yougoslavie ou des pays de l'Est. Voilà, donc par dépêche du 18 juillet dernier, vous aviez d'ailleurs admis le principe que diriger vers des départements de l'intérieur. Voilà, donc il y a une volonté de les renvoyer vers d'autres départements ou de les expulser vers l'Italie. Là, je vais juste vous montrer un peu cet exemple. Voilà, donc vous avez, c'est quelqu'un qui a été intercepté du côté de Breil-sur-Roya. Et voilà, on va lire rapidement. Donc, j'ai franchi clandestinement la frontière italo-yougoslave dans la journée du 31 octobre 1954. À Trieste, j'ai pris le train et me suis dirigé vers Ventimiglia. De cette dernière ville, je suis parti à pied vers la frontière franco-italienne que j'ai franchie clandestinement par la montagne dans la nuit du 1er au 2 novembre 1954. J'ai quitté ma patrie pour échapper à la rigueur du régime qui y sévit actuellement. Je désire me fixer en France pour y chercher du travail. Voilà, donc, quand on regarde on lit les procès-verbaux, les personnes interceptées ou interrogées ne donnent pas beaucoup de détails sur la façon avec laquelle ils ont franchi la frontière. Parce que pour quelqu'un qui passe la frontière la nuit ou passe en fin de journée, c'est ce qui se passe habituellement, il n'a pas cette mémoire pour pouvoir faire la description. Il y a juste parfois des références qu'ils ont eu recours à des passeurs, qu'ils ont été aidés par des Italiens ou qu'ils ont eu recours à un réseau de Yougoslaves qui les a aidés de franchir la frontière. Mais il y a une remarque intéressante, c'est que contrairement à la période qui a été étudiée par M. Schor, il n'y avait pas des entrées par voie maritime. Parce qu'en 1946, le comité pour la libération a voté des crédits pour renforcer la surveillance maritime des frontières françaises. Du coup, pour cette période-là, la période étudiée, je n'ai trouvé presque aucune traversée par voie maritime. Voilà, donc c'est l'une des spécificités de cette période. Et je voulais revenir, il y a aussi quelques indicateurs sur la traversée des frontières. Et là, c'est ce qui intéresse le plus, même si le temps passe. Donc j'ai dit que c'était par voie terrestre, principalement. Il y a aussi, dans certains rapports, des références... une mention sur l'existence de filières du côté de Ventimiglia, donc pour faire passer les migrants. Mais on trouve parfois certains détails sur la trajectoire de ces immigrés irréguliers. Par exemple, bien sûr, pour la majorité, donc, ils viennent de l'Italie. Bon, la majorité, donc tous viennent de l'Italie. Mais certains ont déjà franchi la frontière yougoslave. Donc ça, c'est donc la traversée, donc une première traversée illégale. Après, il y a principalement des séjours dans les centres d'internement ou de rétention de ces immigrés réguliers. Et par la suite, certains trouvent la possibilité pour venir en France. Je vous cite juste un témoignage. d'un immigré qui s'appelle Pavel Spasik, artiste scénographe arrivé à Cannes le 9 août 1954, et je cite son témoignage, donc dans un procès-verbal de police de 14 janvier 1957. J'étais en vacances à Pula, Pula avec P-U-L-A, en Croatie, il y a 6 ou 7 jours. J'ai quitté cette localité avec l'intention de me rendre en France, donc le projet de partir en France était donc dans sa tête. Je me suis embarqué clandestinement à Pula, à bord d'un petit cargo italien. Je suis arrivé jusqu'à Venise, camouflé dans un chargement de bois. J'ai pris ensuite le train jusqu'à Saint-Rémy. Enfin, j'ai pris l'autocar jusqu'à Ventimiglia. De là et à pied, en passant par la montagne, je suis arrivé dans votre pays, à Sospel. J'ai à nouveau pris le train jusqu'à Drape. Au moyen d'un camion, je suis finalement arrivé à Cannes. Ce soir, je me suis présenté à vous. Donc, d'autres franchissent clandestinement la frontière après un séjour dans un camp d'hébergement. Donc, on a un autre cas ici que je pourrais vous montrer. Bon, je vais juste citer la référence. N'ayant aucun espoir de pouvoir travailler en Italie, j'ai décidé de quitter le camp de Crémone et de me rendre clandestinement en France où j'espérais trouver du travail. Et hier matin, vers 8 heures, j'ai donc pris à Crémone un autobus pour Gênes, puis pour Bordighera. De Bordighera, ville située près de la frontière, je suis parti à pied et j'ai franchi clandestinement la frontière italo-française en passant par la montagne. Voilà, donc il n'y a pas une description donc détaillée de la géographie de la zone traversée, parce que c'est des personnes qui ne connaissaient pas. Voilà, par exemple, on peut trouver « j'ai franchi la frontière par la montagne », ou par exemple le témoignage d'une femme qui dit « j'ai traversé l'Italie et finalement la frontière franco-italienne au nord de mon temps ». Mais ce qui est à remarquer, c'est que les lieux d'arrestation des clandestins laissent entendre que les voies de passage privilégiées se situent principalement dans les alentours du pont Saint-Louis, vers la frontière et vers la frontière nord du côté de Bray. En fait, les autres points de frontière, de par leur morphologie, sont soit difficilement franchissables, soit inaccessibles, impossibles à franchir. Selon Nice Matin, l'itinéraire le plus aisé reste celui du col de la Gironde, au nord de Montan, et il semble qu'il soit connu des Yougoslaves. De ce fait, un rapport considère qu'en fonction des seuls cheminements qui paraissent empruntés par les clandestins, il semble que la simple surveillance de la montagne dans les environs de Montan, jusqu'au pas de la veille, devrait soit interdire tout passage irrégulier, soit conduire les clandestins à de lointains détours qui ont diminué très fortement le nombre. Les migrants irréguliers yougoslaves franchissent la frontière soit seuls, soit à l'aide de passeurs. Ce qui attire particulièrement notre attention, c'est la circulation de l'information sur les itinéraires et sur les passeurs entre les Yougoslaves installés en France et leurs compatriotes réfugiés en Italie. À l'intérieur des camps d'hébergement, des réseaux de solidarité communautaire et des passeurs opèrent pour faciliter le franchissement de la frontière franco-italienne par les Yougoslaves. Une fouille de Deda Jojcevic, qui s'est présentée au poste de Saint-Louis afin de régulariser sa situation après son entrée clandestine en France le 10 juin 1966, a permis de découvrir dans son portefeuille une carte sur laquelle est tracé l'itinéraire Trieste-Ventimiglia et de façon plus détaillée l'itinéraire Ventimiglia-Montan. Voilà, je suis quitté. Là, un rapport des renseignements généraux. De ce fait, l'inspecteur, il y a un inspecteur de police qui conclut qu'il, là je cite, « Il me semble donc bien que Gojcevic Deda a été renseigné sur l'itinéraire à suivre, soit par un compatriote l'ayant utilisé avant lui et le lui ayant adressé par voie postale, soit par un passeur habituel. Effectivement, les plans et les consignes circulent dans les milieux des réfugiés. » Et là, je vais vous donner juste un exemple qu'on peut lire. Oui, voilà, donc je finis. C'est un document qui a été trouvé dans la montagne par la police. Voilà, on va pivoter, voilà. Voilà, moi je l'ai devant moi. C'est un document qui a été trouvé donc dans la montagne le 3 février 1959. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc c'est des instructions générales du Comité national croate, instructions pour l'Italie. Et donc ça s'intitule, c'était ça, c'est la traduction parce que le document initial était avec la langue yougoslave, c'est ça? Voilà. Donc, quitter le train par... Bon, je vais lire juste des passages, donc pour voir juste les instructions. Quitter le train à Saint-Rémy, si c'est le matin, attendre l'après-midi. Quitter Saint-Rémy l'après-midi quand le contrôle est le moins sévère. En bus, qui s'arrête devant la gare de chemin de fer. Sur l'autobus marqué frontière, l'autobus part toutes les 10 minutes et traverse les pays Bordighera et Ventimiglia et arrive jusqu'à la frontière. Une fois dans l'autobus, voilà, donc prendre ticket jusqu'à Mortola inférieure. Après, donc il y a des indications avec une carte, mais la carte, je ne l'ai pas trouvée dans les archives. Donc, il y a des indications sur le trajet à suivre. Et après, ce qui est marrant, donc à la fin, c'est que vous voyez ici qu'il donne une indication, une adresse à Nice. Quand vous êtes à Nice, donc s'adresser à Nicolas Vric, au 37 rue Aubert, président de l'association croate à Nice, voilà. Et après, donc, dans la page suivante, que la dernière, oui, voilà. Non, la page suivante, juste l'instruction. C'est que la question, c'est que quand ils sont en France, donc parmi les instructions, on leur dit qu'il faut avoir peur, pas peur de la police française. De la police française, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est juste ils leur demandent d'avoir une tenue. Voilà, vous allez voir exactement ce qui est demandé. Là, je mets, mais je vais lire là. Donc, soyez toujours bien habillés, rasés, ne portez pas de musette. Donc, des sacs de... Le mieux est de prendre des sacs de basket avec le strict nécessaire. Ne vous promenez pas à Ventimiglia, n'ayez pas peur devant les policiers italiens, car ils sont très familiers. Voilà, les membres qui désirent d'autres instructions s'adresser à la direction centrale. Donc, il y a un contact à Nice qui leur facilite l'obtention des titres, bah, pas des titres de séjour, qui peut les orienter. Il y a des adresses ici dans le premier document pour dormir à Nice, pour pouvoir même travailler. Donc, il y a une sorte de solidarité communautaire très importante. Donc, là, on revient juste pour conclure. C'est que l'immigration est régulière, donc, et le résultat, bien évidemment, de la fermeture des frontières depuis le pays d'origine, donc depuis le pays d'origine, dans la zone relais et le pays de destination. On peut parler de zone relais ou zone étape, l'Italie en l'occurrence. Même si la signature d'accord avec la Yougoslavie sur l'immigration régulière, il existe toujours des tentatives pour contourner le cadre officiel. La migration irrégulière a pour corollaire, donc, certes, le changement du destin de certaines personnes, donc immigrées, mais aussi des drames. Donc, là, j'ai pas eu le temps de parler des accidents, notamment du côté du pas de la mort, et aussi, donc, bien sûr, ces personnes-là ont été interceptées et condamnées par la justice française, pas pour des peines très lourdes, mais voilà, donc, ils deviennent intrinsèquement des délinquants. Voilà, et je vous remercie.